Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Burkina Faso, une vingtaine de militaires ont été tués lundi dans le nord du pays. Bagassi Koura fait le point.
L'attaque a eu lieu tôt lundi matin. Des hommes armés non identifiés à moto et en véhicule ont pris d'assaut le détachement militaire de Koutougou, situé à environ 70 km de Djibo dans la province du Soum. Des sources sécuritaires jointes par VOA Afrique parlent d'au moins 24 morts, une dizaine de disparus. Selon nos sources, 12 à 17 soldats manquent à l'appel. On compte aussi de nombreux blessés. Des armes du détachement ont été emportées par les assaillants selon nos sources. Dans des communiqués successifs, l'état-major et le gouvernement burkinabé ont chacun évoqué plus d'une dizaine de militaires tués dans cette attaque, je cite, d'envergure. Jusque-là, la plus grosse attaque djihadiste jamais perpétrée contre l'armée burkinabé avait fait 12 morts à Nassumbu, également dans la province du Soum. C'était en décembre 2016. La semaine dernière, 3 policiers ont été tués dans une embuscade sur l'axe Djibo-Mentao, dans la même région.
Afrique de l'Ouest toujours, fraude dans le domaine des hydrocarbures au Niger. Près de 11 milliards de francs CFA de manque à gagner pour le trésor public. C'est ce que révèle la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Les fraudes sont essentiellement dues à la pratique dite du reversement des hydrocarbures.
Il y avait des esprits malins qui avaient trouvé de quoi s'enrichir dans cette opération. Donc ils se sont investis en exportateur fictif de produits pétroliers.
Amadou Issaka, conseiller à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Schématiquement, il déclarait à la douane à Soraz, il prenait des hydrocarbures, de gasoil ou de l'essence qu'il disait amener au Burkina, au Mali ou bien au Nigeria et reverser une grande partie effectivement sur le territoire national. Un, il bénéficiait d'un tarif préférentiel parce que c'est pas le même prix. Et puis, il payait pas. Il y avait des taxes intérieures telles que la taxe intérieure sur les produits pétroliers, les taxes de consommation, la TVA, qui payait pas. Parce que c'est censé partir. On avait suivi, effectivement, le cheminement de ces hydrocarbures. On est parti au niveau de la douane de Kanchari. Parce que le seul passage pour ces hydrocarbures, pour aller au Mali et pour aller au Burkina, c'est le bureau des douanes de Kanchari. Inévitable. On a été à Ouaga. On a vu la direction générale des douanes du Burkina, avec l'appui de l'ASCE, qui nous ont donné le relevé exhaustif des citernes qu'ils ont reçues, avec les numéros des citernes qu'ils ont reçues au Burkina. Et en faisant cet exercice, on avait diagnostiqué que plusieurs citernes n'étaient pas arrivées. C'était l'ordre de 5 milliards et puis plus quelques infractions qu'il y avait aussi. On avait vu aussi au Mali, on a fait la même chose avec le CLEI.
Ces pertes cumulées à celles occasionnées par les fausses déclarations et la réutilisation des numéros de déclaration sont estimées à près de 11 milliards de francs CFA. La Halcia ne s'est pas limitée aux seules infractions douanières. Gousmane Abdraman est son président.
La Halcia est actuellement présente dans une vaste opération de contrôle portant sur la régularité fiscale des entreprises. Sur un total de 18 sociétés ou entreprises ayant fait l'objet de ce contrôle, il a été découvert que plusieurs opérateurs restent redevables des sommes importantes. Sur ce point, il a été mis en évidence près de 4 milliards de droits non versés à l'administration des impôts.
Les dossiers ainsi ficelés par la Halcia sont transmis au parquet général pour suite à donner. Et c'est là que beaucoup de citoyens ont des appréhensions au vu parfois de la position de certaines personnes impliquées dans les dossiers. Du côté de la société civile active dans le secteur, l'on reste cependant confiant. Maman Wada, président de la section nigérienne de Transparency International.
Je pense quand même que cette fois-ci, la justice est suffisamment dotée. Et vous avez des pôles judiciaires qui sont là, qui sont formés, qui sont spécialisés sur ce genre de questions et qui vont accompagner certainement le travail de la Halcia. Et cette fois-ci, avec les pôles judiciaires, je pense que la question ne sera pas compliquée.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, agitation anglophone au Cameroun. Le leader des séparatistes anglophones, Julius Ayok Tabe, et 9 de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité aujourd'hui par le tribunal militaire de Yaoundé. Information communiquée par l'avocat de l'État, maître Martin Luther Hachet. Ce dernier a confirmé que les 10 accusés se sont vus infliger une peine de prison à vie pour terrorisme et sécession notamment. Ebola en République démocratique du Congo, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exhorté les 9 pays frontaliers de la RDC à faire preuve de solidarité dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà coûté la vie à plus de 1930 personnes dans ce pays. Appel lancé lors d'une réunion au Congo, Brazzaville voisin, Edi Sango.
Le moment est venu pour que tous les partenaires, notamment les 9 pays voisins de la RDC, fassent preuve de solidarité pour barrer la route à la propagation d'Ebola, a déclaré hier le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Ebola est une maladie évitable et traitable. Nous avons un vaccin qui est à plus de 97% efficace et les médicaments qui les sont à plus de 90%, a affirmé le directeur général de l'OMS. Ebola est une urgence de santé qui est complexe. En RDC, où les agents de santé font parfois face à l'insécurité dans les zones touchées, puis au manque de confiance de certaines communautés, a-t-il souligné. Le docteur Ghebreyesus prenait part à la 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui sera marquée par l'élection du nouveau directeur de l'OMS Afrique, qui a son siège à Brazzaville. Au moins 400 participants, dont 47 ministres de la Santé du continent, prennent part à cette session, dont les assises ont été inaugurées par le président Denis Sassou Nguesso. En juillet, les comités d'urgence de l'OMS avaient élevé la 10e épidémie d'Ebola en RDC au rang d'urgence des santé publique des portées internationales. Cette épidémie a déjà tué plus de 1934 personnes en RDC où elle sévit dans la partie orientale, frontalière de l'Ouganda, du Rwanda ou encore du Burundi.
Au Zimbabwe, l'armée et la police déterminées à faire respecter l'interdiction de manifester à Bulawayo, la seconde ville du pays. Pour ce faire, les policiers et les militaires ont occupé les rues de la métropole du Sud-Ouest hier, quelques jours après la répression brutale d'une marche de protestation à Harare, la capitale. Plus de détails avec Michel Joseph.
Des soldats et policiers armés ont patrouillé à cheval ou en véhicule toute la journée dans le centre de Bulawayo. Avec leur mégaphone, ils ont appelé la population à ne pas se joindre à d'éventuels rassemblements. Des barrages policiers ont eu lieu sur les principales routes menant au centre de la ville. Les autorités ont interdit la marche contre l'hyperinflation, les pénuries et le chômage, à laquelle avait appelé le mouvement pour le changement démocratique. La semaine dernière, les autorités avaient interdit à Harare des manifestations de l'opposition contre la détérioration de la situation économique. Des dizaines de manifestants ayant bravé l'interdiction ont été violemment dispersés à coups de matraques, de fouets et de grenades lacrymogènes. Le Zimbabwe est confronté à des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain, l'huile, les carburants et les habitants sont souvent soumis à de très longues coupures d'électricité.
Actualité aux États-Unis pour terminer, limogeage d'un policier blanc impliqué dans la mort d'un homme noir à New York. Un licenciement lundi, 5 ans après les faits. L'affaire avait catalysé en 2014 le mouvement Black Lives Matter qui dénonce les violences policières contre les Noirs. Les précisions de Jacques Aristide.
C'est le chef de la police new-yorkaise lui-même qui a fait état du renvoi de Daniel Pantaleo, accusé d'avoir asphyxié Eric Garner, qui était non armé. L'homme de 43 ans, père de 6 enfants, résistait toutefois aux injonctions de la police. Décision extrêmement difficile, affirme le chef James O'Neill, qui ajoute avoir finalement suivi la recommandation d'une juge administrative qui avait appelé au licenciement du policier à la fin d'un procès disciplinaire en juin dernier. L'histoire qui a déchaîné les passions et provoqué de nombreuses manifestations remonte au 17 juillet 2014. Eric Garner est violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnent de vendre illégalement des cigarettes dans un quartier de Staten Island. Asthmatique, il perd connaissance alors que 5 hommes s'emploient à le menotter avant de décéder. Les images ont fait le tour du monde. On y entend Eric Garner répéter à maintes reprises « « Je ne peux pas respirer ». Le policier Daniel Pantaleo avait ensuite gardé son emploi, mais était cantonné à des tâches administratives. Il avait été récemment suspendu dans l'attente de la décision de James O'Neill.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Hey!